Deutsche Welle. Droits et libertés.
Le processus de réconciliation entre le Fatah et le Hamas a suscité fin 2017 des espoirs chez les Palestiniens, notamment ceux de la bande de Gaza. Mais les rivalités entre ces mouvements ont eu raison des tentatives de rapprochement et la population civile gazaoui en paie le prix au quotidien. Nous parlerons aussi cette semaine des centres de conseil aux migrants mis en place par l'Allemagne en Afrique. Là encore, les résultats sont plutôt mitigés. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
اللي بده برتقال ابو سره رخص اللي بده ابو سره
يلا يا هابا
اللي ابو سره كنافه ربانيه ابو سره.
Des jeunes marchands de fruits et légumes vendent leurs produits sur le marché de Gaza. Le commerce va mal. Comme les Gazaouis ne savent pas de quoi demain sera fait, ils dépensent le moins d'argent possible. Ce passant, âgé d'une cinquantaine d'années, longe les étals sans rien acheter.
La situation est très mauvaise. Il y a un fort taux de chômage, donc les gens n'ont pas d'argent. Les employés reçoivent 40 à 50% de salaire en moins qu'avant. J'en fais partie.
Cet homme nous raconte qu'il est fonctionnaire. C'est l'autorité palestinienne qui, depuis Ramallah, lui verse son salaire, diminué de plus de la moitié depuis le début de l'année 2017. Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, a tenté ainsi de faire pression sur le Hamas, qui dirige la bande de Gaza. Des sanctions maintenues, y compris qu'en fin 2017, les deux mouvements, Fatah et Hamas, ont ratifié un accord de réconciliation.
Ces sanctions ont un objectif politique. Elles sont censées mettre la pression sur l'autre partie. Abbas fait cela pour être en position de négocier.
Pourtant, Mahmoud Abbas avait promis de lever les sanctions et de verser à nouveau les salaires dans leur intégralité si le Hamas transférait le contrôle de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Sur le papier, c'est ce qui a été fait, mais le Hamas continue en sous-main de s'accrocher au pouvoir. Et c'est pourquoi Mahmoud Abbas a maintenu ses mesures de rétorsion. Celles-ci touchent de plein fouet les Gazaouis.
Le rapprochement était condamné à l'échec. Les deux parties ont entamé les discussions dans l'idée de parvenir à remporter le meilleur pour elles-mêmes. Cela ne pouvait pas marcher.
Akram Atala habite près du marché. Il est célèbre pour les éditos politiques qu'il publie dans le journal Al Ayam, qui paraît à Ramallah. Atala a souvent écrit sur les rivalités interpalestiniennes, sur la façon dont le Hamas a chassé le Fatah de la bande de Gaza, il y a une dizaine d'années maintenant, sur cette brouille entre les deux entités qui a paralysé la politique palestinienne, sur les différentes tentatives de rapprochement aussi, jusqu'à la formation même d'un gouvernement commun qui n'a pas tenu. Akram Atala craint lui aussi que ces nouveaux pourparlers ne soient voués à l'échec, faute de compromis d'un côté comme de l'autre.
Les deux camps ne sont pas prêts à coopérer. Le Fatah veut le pouvoir sans avoir à le partager. Le Hamas veut que les employés soient de nouveau payés, que ses militants gardent leur poste et que sa milice n'ait pas à déposer les armes. Du point de vue du Hamas, le Fatah est simplement là pour régler les factures. Alors comment ces mouvements peuvent-ils trouver un terrain d'entente s'ils n'ont pas la même définition de la réconciliation ?
Une situation particulièrement visible au poste frontière de la bande de Gaza. Officiellement, ce sont les hommes de l'autorité palestinienne qui ont pris le contrôle des points de passage, mais ils ne sont pas armés et de ce fait, ces douaniers sont simplement tolérés par le Hamas qui, lui, n'a pas déposé les armes. C'est l'un des nœuds qui persiste entre les deux mouvements. Ibrahim Abou El Najjar est un cadre du Fatah dans la bande de Gaza. Il comprend le maintien des sanctions.
Bien sûr que le président Abbas avait promis de les lever, mais seulement si l'autorité palestinienne retrouvait le contrôle total et pouvait mener à bien ses prérogatives dans tous les domaines. Ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui.
La bande de Gaza n'a toujours qu'un accès limité à l'électricité parce que Mahmoud Abbas refuse de payer les factures. En moyenne, les Gazaouis n'ont du courant issu du réseau public que toutes les 12 heures, durant 4 heures par jour seulement. Alors ils compensent avec des générateurs au diesel, mais beaucoup ne peuvent pas se payer le carburant nécessaire. À cela s'ajoute que la frontière avec l'Égypte n'est ouverte que sporadiquement et très peu peuvent donc sortir de la bande de Gaza. Le Hamas et le Fatah ont promis une ouverture durable du passage au moment de la signature de leur accord en octobre dernier. Et comme les pourparlers ont eu lieu sous médiation égyptienne, de nombreux habitants de Gaza avaient espéré que la frontière vers l'Égypte aussi serait ouverte. Là encore, leurs espoirs ont été déçus, comme l'analyse l'éditorialiste politique Akram Atala.
Les gens n'ont plus confiance en le Hamas et le Fatah. La situation économique est un désastre. Pas de courant, pas de travail, pas d'argent. Les gens ont l'impression que Fatah et Hamas n'ont pas saisi cette chance historique de faire la paix, alors que les Gazaouis avaient placé tant d'espoir en ce processus. Les gens se sentent abandonnés par les deux parties, ce qui explique aussi qu'ils ne soient pas prêts à répondre à leurs appels à descendre dans la rue.
Selon Akram Atala, ceci expliquerait donc que les manifestations contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël aient eu relativement peu d'écho aussi dans la bande de Gaza. Bien que cette décision ait permis de rapprocher un peu les points de vue entre Hamas et Fatah dans un élan de solidarité interpalestinienne. Mustafa Sawaf a été vice-ministre des Affaires sociales du Hamas dans la bande de Gaza. Il écrit maintenant pour différents journaux et reproche au Fatah de faire capoter les négociations.
S'il y avait une réelle volonté politique, on pourrait surmonter les obstacles de ces 10 dernières années. Malheureusement, une des parties l'empêche. Mais nous avons reçu un cadeau de Dieu. La décision de Donald Trump sur Jérusalem nous pousse à resserrer nos rangs et à réagir ensemble. Si l'on observe la réaction de Mahmoud Abbas, on voit que son attitude a changé.
Visite chez la famille Shamali en périphérie de la ville de Gaza. À 32 ans, Hicham est assistant au service radiographie d'un hôpital et père de 3 enfants. Lui aussi ne touche que 40% de son salaire en raison des sanctions décidées à Ramallah.
On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je suis très endetté et je risque même d'aller en prison pour cela. J'ai la chance que nous puissions habiter chez mes parents sans avoir à payer de loyer. Sinon, nous serions à la rue.
L'un de ses deux frères a une formation de professeur d'anglais, mais du fait de son appartenance au Fatah, il n'a plus d'emploi depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas. Pendant 10 ans, l'autorité palestinienne a continué à lui verser quand même son salaire, mais désormais les sanctions le touchent aussi. Et puis le troisième de la fratrie, Khaled, était officier de la garde nationale du président Abbas. Et depuis l'arrivée du Hamas, il n'est pas retourné à la caserne. Alors pourrait-il s'imaginer servir aux côtés d'anciens combattants du Hamas ? Écoutez sa réponse.
Si on nous donne l'ordre, nous pourrons travailler ensemble. Je pense que cela peut marcher si eux aussi le souhaitent.
Le gouvernement allemand a beaucoup insisté sur la nécessité de combattre les causes profondes de l'émigration en Afrique. Pour ce faire, des centres de conseil ont été ouverts dans 3 États africains. En coopération avec des fonctionnaires locaux, des conseillers aident les personnes qui sont rentrées au pays ou qui espèrent pouvoir émigrer légalement. Le 3e de ces centres de conseil allemands pour migrants a ouvert ses portes à la mi-décembre à Accra, au Ghana. Friedrich Kitschelt, secrétaire d'État au ministère de la coopération économique allemande.
Quand quelqu'un revient au pays, il ne rentre pas en tant que perdant. Au contraire, il y a des opportunités pour lui dans sa culture, dans l'économie de son pays.
Le premier centre de ce genre avait été inauguré en mars 2017 à Tunis par le ministre allemand de la coopération. Gerd Müller avait alors promis de ne pas laisser un seul retourner au pays sans accompagnement. Mais la réalité est plus compliquée que les promesses et les grands discours. Aileen Thura de la GIZ, la société de coopération technique allemande, dirige le projet de Tunis. À la mi-décembre, seuls 21 Tunisiens rentraient au pays après avoir émigré. C'était enregistré au centre sur un millier de personnes venues y chercher conseil.
Oui, on a mis du temps à démarrer.
En tout, 3 conseillères reçoivent les gens au centre. Et selon Aileen Thura, il y a des opportunités pour des Tunisiens en Allemagne.
Il y a des besoins en informatique, dans la restauration et l'hôtellerie, mais aussi dans le domaine des soins à la personne. On peut dire que si vous avez ce type de profil, vos chances de trouver quelque chose sont plutôt bonnes.
Sauf que là encore, peu de Tunisiens ont la formation correspondante à ce type de métier et la plupart ne parlent pas allemand. Le centre de conseil met les gens en relation et forme des employés de l'Agence tunisienne pour l'emploi. Un travail de fourmi pour que de plus en plus de personnes se qualifient. Même constat dans le centre ouvert en septembre à Casablanca, au Maroc. Anas Doukali, directeur de l'Agence marocaine pour l'emploi, y travaille avec des Allemands et il reste pragmatique.
Écoutez, pour les jeunes, ils sont à la recherche d'opportunités au Maroc, même à l'étranger. Beaucoup de jeunes vont choisir malheureusement des canaux non officiels, des canaux clandestins. Or, ce que nous offrons aussi à la jeunesse marocaine, c'est des canaux officiels d'abord. C'est de leur informer sur les opportunités qui existent. Elles peuvent ne pas être nombreuses, mais elles sont là.
Pour conclure, il faut souligner que ni le Ghana, ni la Tunisie, ni le Maroc figurent en tête de la liste des États d'où sont originaires le plus grand nombre de migrants qui cherchent à gagner l'Europe. Il est encore tôt, évidemment, pour dire, quelques mois seulement après l'ouverture du premier centre d'accueil, si ces établissements parviendront réellement à dissuader de nombreux candidats au départ, en les aidant à bâtir un avenir dans leur propre pays. C'est la fin de ce magazine. Merci à Jens Borchers et Tim Asman pour les sons. N'hésitez pas à nous écrire à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.